Sébastien Hervieux, bonjour.
Bonjour.
La mort de George Floyd aux États-Unis a provoqué une indignation à travers le monde. En Afrique du Sud, est-ce que cet incident a eu une résonance particulière au vu de l'histoire du pays ?
Oui, clairement, une résonance particulière. Il faut se rappeler, dès 2015, j'étais à l'Université du Cap et à l'entrée de ce campus, il y avait une immense statue de bronze de Cecil Rhodes. Cecil Rhodes, c'était ce magnat minier et colonisateur britannique. Et cette statue a été déboulonnée sous les vivats de la foule et foule d'étudiants. Et cet acte, déjà, à l'époque, c'était le symbole d'une colère, d'une frustration pour tous ces étudiants qui ont le sentiment d'être encore trop noirs dans un monde encore trop blanc. Et qui juge en réalité finalement que le pays n'a pas fini d'être décolonisé, même plus d'un quart de siècle après la fin de l'apartheid. Pour eux, cette fameuse nation arc-en-ciel qui était si chère à Nelson Mandela, eh bien, c'est une coquille vide. Alors certes, vous avez une classe moyenne noire qui a émergé grâce à une politique de discrimination positive. Mais pour la grande majorité des Noirs, ils ont le sentiment d'être laissés pour compte dans un pays qui est l'un des plus inégalitaires au monde. Il suffit de regarder les chiffres. Hein. Aujourd'hui, plus de 30% des Noirs sont au chômage contre seulement 7% des Blancs. Et quand je vous dis que ça résonne aujourd'hui, eh bien, en Afrique du Sud, ce fameux privilège blanc qui est hérité des discriminations sous l'apartheid, il existe toujours, mais il est de moins en moins toléré.
Vous parlez de ce mouvement de décolonisation, des statues, il y en a eu d'autres, hein, comme Fees Must Fall, qui était un mouvement pour demander l'éducation gratuite. Qui sont ceux qui portent ces mouvements ?
C'est la Born Free Generation, comme on l'appelle en Afrique du Sud. C'est cette génération de ces Sud-Africains qui sont nés libres et qui sont aujourd'hui devenus adultes. Ce sont des jeunes noirs désillusionnés qui me répètent qu'un bulletin de vote, eh bien, ça ne se mange pas. Alors, il y a ceux qui sont parvenus à faire des études, c'est souvent leur seule arme pour sortir du cercle vicieux de la pauvreté, mais ils savent bien que le moindre accident de parcours, ça peut ruiner tous leurs espoirs. Et puis il y a ceux qui sont largement la majorité, qui sont prisonniers d'un chômage massif, et pour eux l'avenir est un horizon complètement bouché. Et cette génération, c'est intéressant, elle se retrouve en conflit avec la précédente. Devant leurs parents, ces jeunes, ils n'ont plus peur aujourd'hui de dénoncer les ex-libérateurs du pays, ces dirigeants de l'ANC qui est le parti au pouvoir depuis 1994. Et pour eux, ces leaders n'en ont pas fait assez, ils ne les écoutent plus. Vous avez même une frange de la jeunesse qui exerce aujourd'hui un droit d'inventaire sur le bilan de Nelson Mandela, ce qui paraît assez stupéfiant vu de l'extérieur. Et elle accuse justement cette icône mondiale d'avoir trahi les Sud-Africains noirs au moment de la transition. Et la raison, ils n'auraient pas suffisamment remis en cause les privilèges des Blancs.
Et pourtant, ces jeunes n'ont pas connu l'apartheid. Ça veut dire que les cicatrices de cette époque sont encore douloureuses, que les problèmes de racisme et d'inégalité ne sont pas réglés. Comment ça se traduit ?
Ça se traduit par une grande violence qui gangrène justement ce pays. Vous avez des niveaux très élevés de criminalité, de violence sexuelle, souvent de la part d'hommes désœuvrés. Et ces Sud-Africains, ils ont accumulé tellement de frustration qu'ils vous disent « Eh bien, comme on me traite comme un moins que rien, je fais pareil avec vous ». En réalité, ces violences, il faut surtout les voir comme des symptômes d'un mal profond, presque des appels à l'aide. Mais le problème, c'est qu'en face, vous avez une élite sud-africaine, qu'elle soit blanche ou noire, qui fait la sourde oreille, qui est indifférente, souvent méprisante, parfois même violente à l'égard des plus pauvres. Et ce comportement, c'est clairement un héritage du passé brutal du pays. Et vous disiez, c'est pour cela que j'ai intitulé mon livre « Les cicatrices de la liberté ». Cette liberté, cette libération, l'Afrique du Sud, elle est inachevée et c'est douloureux. Cette société sud-africaine, c'est une société qui est encore traumatisée. Clairement, les dirigeants n'ont pas suffisamment pansé les plaies. Alors, il y a les plaies du passé, des victimes de l'apartheid, encore aujourd'hui, n'ont toujours pas obtenu justice et réparation. Et puis, la terre n'a pas été assez redistribuée. C'est comme si ce pays était une sorte de maison hantée à ciel ouvert. Et vous avez aussi les plaies du présent, avec cette pauvreté qui mine la dignité d'une majorité des Sud-Africains noirs.
Alors, vous parlez de cette élite qui n'est pas allée assez loin. Pourtant, tous les leaders depuis la fin de l'apartheid sont issus de l'ANC qui a lutté pour la liberté. Pourquoi n'ont-ils pas réussi à changer le pays ?
Les dirigeants qui ont succédé à Nelson Mandela, la critique qui est faite aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas fait assez, qu'ils se sont presque endormis, qu'ils ont considéré que finalement leur pouvoir était acquis. Alors, en 2018, quand Cyril Ramaphosa, le nouveau président, arrive au pouvoir, il incarne un nouvel espoir. On parle même à l'époque de Ramaphoria, euphorie en anglais, pour désigner cet optimiste enthousiaste. Aujourd'hui, son leadership est salué dans cette crise du Covid qui touche fortement l'Afrique du Sud. Mais avant cette pandémie, il ne faut pas oublier qu'il peinait à chasser la corruption, à relancer l'économie. Mais je pense vraiment qu'on peut avoir confiance dans les Sud-Africains, en particulier dans cette génération d'aînés libres dont on parlait, qui a déjà montré qu'elle pouvait se mobiliser pour son avenir. C'est un peuple frondeur qui s'est toujours battu pour exister et qui continuera à le faire. Et surtout, il ne se laissera pas faire. Et il l'a fait justement, par exemple, en faisant chuter Jacob Zuma, le prédécesseur de Ramaphosa. Il ne supportait plus que ce président ait fait du pillage des ressources publiques sa marque de fabrique. Et c'est un pays aussi qui a une société civile mordante, des contre-pouvoirs robustes, et clairement, ce n'est pas si courant sur le continent africain.
Donc le président Cyril Ramaphosa qui suscite beaucoup d'espoir parmi la majorité noire qui, 25 ans après la fin de l'apartheid, se sent encore citoyen de seconde classe dans son propre pays. Sébastien Hervieux, je vous remercie.
Merci.